Rosli est né l'homme de l'au-delà. Il y a exactement 3 mois, me raconta Jacques Brodeuil, un de mes amis, spécialiste convaincu, me mena à une soirée solennelle où devaient opérer des médiums anglo-saxons armés de méthodes et des appareils les plus perfectionnés pour établir les communications avec l'au-delà. Nous vîmes et y entendîmes des choses vraiment très curieuses. Le médium Bob Morlock était un spécialiste dans les photographies et les apparitions fantomales. Le médium Chesterfield nous faisait entendre les voix de l'autre monde dans le pavillon d'un phonographe. Morlock nous montra des photographies de l'au-delà qui représentaient Nelson, la reine Elisabeth, le roi Édouard, le poète Shelley, et aussi Napoléon, Mahomet, Voltaire et Cervantes, et d'autres encore. Il nous fit d'ailleurs poser devant son objectif et promit de nous envoyer des épreuves de nous où nous verrions les traits des parents, des amis disparus depuis de notre propre image, à côté de notre propre image. Karl Chesterfield nous fit converser avec le tsar Nicolas, avec Milton, avec la reine Victoria, avec le roi Louis XIV, avec Jules César et même avec Hannibal. Toutes ces personnes-là parlaient anglais, ce qui est, paraît-il, très normal quand le médium appartient à la nation britannique. Si j'étais français, nous affirmait Chesterfield, il parlerait français. Car la langue ne fait pas partie pour l'au-delà. Tout le monde y parle là-bas par suggestion, la langue des médiums. Je me souviens que le tsar Nicolas gémissait « Oh, sans ce scélérat de moine, la Russie aurait été sauvée. » Milton nous récita un passage du Paradis perdu. Et il nous déclara que la race humaine dégénérerait à cause des papistes. La reine Victoria remarqua que l'amitié franco-anglaise datait de la campagne de Crimée. Elle plaignait le triste sort de son petit-fils Wilhelm. Jules César déclara que Brutus était un sale bandit et qu'il regrettait d'avoir fait tuer Vercingétorix. Quant à Hannibal, il affirma que la bataille de Zama avait été gagnée par l'or romain et non pas par ce miteux Scipion, qui n'était qu'un stratège de deuxième corde. La soirée finit par des apparitions. Nous étions plongés dans une obscurité profonde et nous vîmes défiler diverses personnes illustres enveloppées d'une certaine phosphorescence. Il y avait entre autres Shakespeare qui se plaignit amèrement de ces damnés mots qui s'acharnent à lui enlever sa gloire. Nous aperçûmes aussi Charlemagne, avec sa barbe fleurie, toujours autant qu'en l'an 1800. Il parut encore quelques personnes plus modestes, parmi lesquelles un certain Jackson, qui avait péri lors du naufrage du Titanic. Il nous raconta ce cataclysme avec quelques détails inédits, et non pas capable de chanter « Plus près de toi, mon Dieu !» Après quoi, il disparut, positivement happé dans la muraille. Nous nous retirâmes, édifiés et un peu inquiets. Les médiums nous avaient affirmé que toute notre famille disparue jusqu'aux plus lointains ancêtres nous faisait régulièrement des visites. « Vous vous croyez seul ?» s'exclamait Chesterfield, « alors que parfois vous avez plus de 50 personnes de l'au-delà qui vous tiennent compagnie. Si vous aviez reçu le don de médiumité, vous ne manqueriez pas de voir combien les morts qui nous entourent sont sans cesse plus nombreux que les vivants. » Une semaine plus tard, j'étais encore sous le coup de ces événements étranges. Par intervalles, je me sentais positivement les frôlements de l'au-delà. Et je me demandais si c'était mes chers disparus, ou des aïeuls, ou encore des indifférents qui me regardaient manger, dormir, travailler, etc. Le lundi matin, je corrigeais une pièce pour l'Odéon. J'étais en train d'évoquer la grande figure de Mirabeau, tout en songeant qu'une petite interview avec cet orateur n'aurait rien gâté à l'affaire. Lorsque on sonna à ma porte, quelques instants plus tard, une servante m'annonçait la visite d'un inconnu. Tous les écrivains exècrent ces individus qui entrent dans votre vie sans aucune invitation et viennent vous déranger dans vos méditations, votre travail et votre repos. « Rosine, grognai-je, vous savez bien que je n'y suis pas. Ben, je l'ai dit à ce monsieur, mais ce monsieur prétend que vous êtes là. Que le concierge lui a dit et qu'il vient pour quelque chose de très pressé qui concerne monsieur. Il vous a donné sa carte ? Non, monsieur. Oh, la barbe, dis-je. Mais je cessais de me défendre. Il entre donc, fis-je avec mélancolique résignation. Quelques minutes plus tard, je vis paraître un long individu, le poil roux, les yeux indigos, venu d'on ne sait où et vêtu d'un costume à carreaux plutôt usagé. Son aspect m'avait surpris. Je le regardais avec attention et je finis par dire « Mais je vous reconnais, c'est vous qui êtes apparu l'autre jour sur l'appel du médium Chesterfield, Monsieur Jackson, je crois, l'homme du Titanic. Eh oui, c'est bien moi, me dit-il, l'homme d'une voix caverneuse. Oh, il m'arrive une épouvantable mésaventure. J'ai oublié le truc. Je peux plus entrer dans l'au-delà. Et comment, m'écriai-je, stupéfait. Il y a donc un truc pour... Mais oui, il faut le truc, reprit-il. Oh, vous me direz que je n'ai qu'à mourir, mais on ne meurt pas deux fois. Alors, en attendant, comment vivre? Prêtez-moi une centaine de francs. Je vous promets de vous les rendre au centuple quand j'aurai réussi à rentrer là-bas. Qu'auriez-vous fait à ma place? Je lui ai prêté les 100 francs. Et je ne l'ai plus revu. Oh, il a probablement réussi le truc. Il a retrouvé. Il est dans l'au-delà. Je pense qu'il me tiendra parole.